Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
C'est avec une énergie renouvelée qu'on vous retrouve d'une semaine à l'autre, François Côté et moi-même, Simon Forgue. Et François Côté,
bonjour.
Es-tu énergique?
Énergie renouvelée. Renouvelable ou renouvelée?
Ben, renouvelée dans le sens que d'une semaine à l'autre, on recharge les batteries, on s'informe d'un paquet de sujets.
Moi, j'aime mieux parler d'énergie renouvelable.
Ça, c'est intéressant parce que plus tard...
T'es pas sérieux.
Je te le dis.
Non.
On fait pas du coq à l'âne,
non? Non.
On reste en ligne droite avec un sujet que nous allons aborder.
Oui.
Un peu plus tard dans l'émission.
Oui, l'énergie renouvelable.
D'énergie renouvelable, justement.
C'est ça. Exactement. Hein? Wow.
Pas pire, hein?
Hey,
parce que...
on est bon.
On voit ça pousser de plus en plus, un peu partout à travers le pays, là,
oui.
des projets soit éoliens ou encore solaires.
Mm-hmm.
Et puis, on va aller s'intéresser à un de ces projets-là qui s'en vient un petit peu plus tard dans l'émission.
Un beau gros projet.
Absolument. Juste un petit entrefilet d'entrée de jeu pour vous dire qu'il y a une nouvelle qui est tombée très, très récemment, il y a quelques jours à peine. On sait maintenant qui va organiser les Jeux de la francophonie canadienne 2025.
Mm-hmm.
C'est la ville de Laval au Québec.
Oui.
Il y a trois villes en tout et pour tout qui avaient soumis un dossier. Il y avait Laval, justement. Il y avait North Bay en Ontario et puis Ottawa également.
Okay.
Et parmi les trois, ben, c'est Laval qui s'est avéré avoir le plus de points parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
Mm-hmm.
Et puis, à l'unanimité, Laval a été choisi pour sa capacité, entre autres, d'organisation événementielle. Parce qu'il promettait un retour solide des Jeux de la francophonie canadienne. Tu sais comment ça faisait tant qu'il n'y en a pas eu, là?
Ça fait un méchant bout
ça fait 8
à
ans.
Cause de la pandémie.
Ouais. Absolument. Ça faisait huit ans d'absence en raison de la pandémie de la COVID-19, entre autres choses. Bon, ça revient pas à tous les ans, là, on s'entend, là, les Jeux de la francophonie. Mais à cause, justement, de cette espèce de trou-là qui a été inscrit dans l'agenda, là, où à peu près tout s'est
arrêté. Fait que 2025, hein?
Ouais, 2025.
Okay.
Prochaine édition qui aura lieu du 15 au 19 juillet 2025.
Bon. Ceci dit.
Oui, vas-y, de quoi tu veux me parler, là, toi, là?
Ben,
à moi et aux gens, là.
Je vais rester très thématique à l'émission.
Oui, OK, vas-y.
Oui, je vais te parler de réchauffement climatique.
OK.
Hein? Énergie, réchauffement climatique.
On sait que ça va de pair, hein?
Ça va de pair.
Parce que le réchauffement climatique est dû en grande partie à notre consommation d'énergie fossile.
Exactement.
Autre chose.
Et en plus, tu nous as parlé des Jeux de la francophonie. Fait que je vais te parler un petit peu de sport aussi.
Ben non.
Je te dis.
Il est fin de même.
Chaque degré de réchauffement planétaire entraîne 95 coup de circuit supplémentaire dans le baseball majeur.
C'est sérieux, ça?
Oui, c'est une étude qui a été faite par des chercheurs de Dartmouth College.
Ah, ouais.
Les scientifiques ont analysé 100 000 matchs de balles, 220 000 balles frappées, pour conclure que le dérèglement climatique dope les coups des frappeurs.
Hein?
Oui.
Ben voyons donc.
Je te dis, le réchauffement actuel,
OK,
qui est estimé à peu près 1,2 Celsius de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Ben, ça serait à l'origine de 58 coups de 4 buts de plus par année entre 2010 et 2019. Pour donner une idée, on a compté 6776 coups de circuit durant la saison record de 2019. Mais 58 coups de circuit sur 6776, c'est quand même assez modeste. Là, on parle d'environ 1% des coups de circuit qui seraient liés au changement climatique sur une période de 10 ans. Or, si on fait rien pour ralentir le réchauffement climatique, on parle d'une hausse de 10% d'ici 2100 et une augmentation moyenne des températures de 4 degrés. Faut savoir que lorsque les températures sont plus élevées, la densité de l'air est donc plus faible.
Ah, c'est, oui, c'est
et
ça.
Lorsque la densité de l'air est plus faible, la traînée sur un objet volant, qu'il s'agisse d'une balle de baseball ou d'un avion, là,
oui.
Ben, est beaucoup moindre.
OK, ouais, c'est ça.
Alors, on peut donc s'attendre à plus de coups de circuit durant une journée chaude par rapport à une journée fraîche. Plusieurs facteurs ont été pris en compte dans l'analyse des données, y compris, bon, si le stade est couvert d'un toit ou non, les variations dans la fabrication des bâtons et des balles, et aussi l'utilisation de substances améliorant la performance.
Comprendre...
comprendre que...
C'est ça.
En fonction de ces paramètres, OK, les scientifiques estiment que c'est au Wrigley Field,
OK,
et le stade de baseball des Cubs de Chicago, où on pourrait constater une augmentation du nombre de coups de circuit, puisque c'est là où les parties sont jouées durant la journée, lorsqu'il fait plus chaud.
Ah!
Mais on risque d'assister de moins en moins à des games de balles dans un stade non couvert, bien sûr, en raison du réchauffement climatique. La hausse des températures a d'ailleurs eu raison du stade des Rangers du Texas, qui avait été construit en 1994. L'équipe a dû déménager dans un stade climatisé à toit rétractable, un peu comme à Toronto, en 2020 parce que la chaleur estivale était rendue insupportable. Insupportable. Fait que les auteurs de l'étude, ils ont dit c'est pas nécessairement de mesurer l'impact du réchauffement climatique sur le baseball comme tel, qu'il voulait démontrer, mais plutôt démontrer à quel point la déréglementation climatique affecte toutes les facettes de nos vies.
Oui, c'est intéressant de voir que jusque dans une composante comme le monde du sport, là, dans les circuits que les frappeurs réussissent à traverser de l'autre bord de la clôture, la hausse des températures a joué un rôle à ce point important sur le climat, sur la densité de l'air.
Qu'on en fasse une recherche.
Qu'on en fasse une recherche et qu'on démontre qu'il y avait un lien de causalité et de cause à effet.
Absolument, oui.
Même que c'est rendu que les équipes de baseball sont obligées de changer de stade de balle.
Oui, parce qu'il fait trop chaud.
Wow!
Ben oui. Puis ça va devenir de pire en pire.
Hey, c'est capoté rare, mon
gars. Ça va devenir de pire en pire.
C'est capoté rare.
Et toi?
Moi, je vais parler d'intelligence. Pas artificielle.
Ah, merci. Je suis content que tu parles de moi, enfin.
Il se sent pointé, tu sais, je la regarde. Vous connaissiez les téléphones intelligents?
Bien sûr, on en a tous un.
Vous connaissez, par exemple, les thermostats intelligents, hein, qui s'ajustent et tout ça, hein? Ben, bientôt, il pourrait y avoir les pansements intelligents.
Les quoi?
Les pansements intelligents.
Les plasters.
Absolument, genre de plaster, qui vont surveiller votre état de santé et qui vont vous soigner. Non, non, mais rien de moins. Allez, on est rendu loin.
Oui, OK, oui.
Alors, le moment est peut-être plus très loin où, effectivement, on va pouvoir bénéficier de cette espèce de technologie révolutionnaire pour soigner, entre autres, les plaies chroniques. Et c'est pour ça qu'on les a créées.
Okay.
Ouais, je parle ici d'un pansement intelligent qui est capable de surveiller en permanence les plaies et même de les soigner. Il y a un article sur le sujet qui est paru récemment dans la revue Science Advances et c'est tout à fait sérieux. Là. C'est pas de la frime, c'est pas de la science-fiction. C'est quoi les plaies chroniques, entre autres? Bon, je pense à celles qui surviennent dans certaines conditions médicales, l'insuffisance veineuse, problème de diabète.
Oui.
On sait que les gens qui font du diabète, des fois, ça dégénère en des ulcères et des trucs du genre. Et si c'est pas surveillé, si c'est pas soigné, ben les plaies chroniques peuvent dégénérer, s'infecter, même causer des complications graves. Ça peut aller, par exemple, jusqu'à l'amputation, voire même la mort.
Mmh.
Parce que si c'est pas soigné,
ben
et que l'infection prend là-dedans, ben évidemment, ça peut dégénérer. Mais ce nouveau pansement intelligent vient d'être créé pour pallier au problème, c'est-à-dire qu'on va pouvoir surveiller plus efficacement et soigner plus rapidement de telles plaies. Le pansement, c'est littéralement une patch adhésive. T'as dit tantôt un plaster.
Un gros plaster.
Un gros plaster,
oui.
Mais qui est doté de certaines facultés qui le rendent, en guillemets, intelligent.
Ouais.
On comprend que le téléphone, il est pas plus intelligent que nous autres s'il reste là sur la table.
Il faut s'en servir pour qu'il soit intelligent.
Il faut s'en servir, il faut qu'il soit doté de certaines capacités. Alors lui, ce pansement-là, il a des électrodes et on fixe ça à la peau du patient Et ça renferme une carte avec des circuits électroniques qui sont imprimés dessus. Donc, ah, il s'est rendu loin, là.
Wow!
Et c'est flexible et tout ça. Ça a été développé à l'Institut californien de technologie, qu'on appelle aussi le Caltech. Et ce pansement révolutionnaire est à la fois, écoutez ça, flexible, extensible et biocompatible, c'est-à-dire qu'il ne nuit pas au corps humain. Tu mets ça là, puis c'est pareil comme un plaster ordinaire, là. À toute fin utile. Fort. Très
wow.
Fort. Et en plus donc de renfermer cette espèce de réseau d'électrodes sensorielles et une paire d'électrodes pour assurer le suivi de la plaie du patient, okay. L'humidité, les bactéries, ouais. Les trucs du genre, il y a une espèce de couche d'hydrogel qui est intégrée okay. Au pansement et on charge ce gel-là avec des médicaments.
Ah!
Espèce d'onguent.
Ben oui.
Et parmi les autres composantes électroniques qu'on retrouve là-dedans, petite batterie miniature, une puce Bluetooth et un capteur de température. On est rendu loin, là. On est rendu wow. Loin, mais en même temps, tu dis, t'es diabétique, par exemple, et puis t'es sujet à faire justement des plaies ouais. Comme ça. Tu dis, wow! Je suis peut-être en train de me faire guérir sans avoir besoin constamment d'avoir une mm-hmm. Surveillance médicale, une infirmière ouais. Qui vient et tout ça, là.
Fait que là, s'il y a un Bluetooth dessus, j'imagine que tu dois être capable de le brancher même sur ton téléphone.
Exactement. C'est ça la magie de l'affaire.
Wow.
C'est que le pansement surveille l'humidité, la température, oui. les réactions du corps qui font que, oh, il y a une infection. Alors, ce faisant, lui, comme tu es surveillé en permanence, au moment opportun, si jamais il voit que ça dégénère la plaie, injecte ou en fait étend une petite touche de d'onguent,
d'onguent
ou de
ouais.
Crème médicamentée sur la plaie et il envoie le cas échéant aussi en cas de signe d'infection une alerte à ton téléphone. Il dit oh attention là, c'est à surveiller, il y a de la chaleur ou il y a une okay. Réaction chimique qui est
ouais,
en train de se
attention.
Faire parce
ouais.
Que c'est ça à toute fin utile ce pansement là, il vérifie le pH de la peau et okay. Les réactions chimiques qui se font justement dans la plaie et c'est comme ça qu'il réagit. C'est
man, on est rendu loin là.
Je pensais pas voir ça
dans
mon jeune temps.
Non.
Les tests qui sont menés jusque là sur des rats en laboratoire ont démontré effectivement l'efficacité de cette invention pour soigner des plaies qui risquait de s'infecter avec des bactéries nocives, à quoi on peut penser la fameuse E. coli, par exemple.
Ben oui.
Et ça a permis d'accélérer, justement, la cicatrisation de certaines des plaies très semblables aux ulcères que peuvent, justement, développer, entre autres, les mm-hmm. Personnes diabétiques. Et là, il y a des essais cliniques qui sont prévus sur des humains très, très, très bientôt. On connaît pas le moment exact où on va vendre ça, où on va pouvoir prescrire ce genre d'affaires-là, mais on dit que ça devrait se faire incessamment. Vous devriez voir ça d'ici très, très peu de temps.
Si on commence à faire des tests sur des humains, là, c'est parce que c'est proche.
Exactement. Et c'est wow. D'autant plus intéressant qu'on est actuellement dans une espèce de pénurie de médecins. Hein. Il y a bien des gens qui n'ont pas de médecins de famille,
ouais.
Qui n'ont pas capable de se faire traiter. Ben, si au moins on a des technologies semblables qui sont capables de nous ameuter ou de nous avertir en cas de problème, ben, ce sera déjà ça de gagner.
J'ai hâte de voir ça va être quoi le prochain.
Et on dirait qu'on d'une step à l'autre, on est tout le temps plus impressionné.
Oui, c'est ça.
On se demande quand est-ce que ça va arrêter.
Tu sais, quand est arrivé le fameux thermostat intelligent, on a tout fait comme wow, ça c'est cool. Ouais. Mais là, tu parles d'un autre niveau là.
On est à 2-3 coches au-dessus. Absolument.
Ouais.
On s'arrête pour une pause. On vient dans un instant. On va parler de notre projet éolien.
Oui, absolument.
Restez branchés.
Cette émission peut contenir des infos.
À Smoky River, en Alberta, il y a la firme ABO Wind Canada qui propose d'aménager un projet éolien dont mm-hmm. La capacité prévue est de 160 mégawatts.
Et sachant, Simon, que les besoins en énergie électrique vont devenir de plus en plus grands, avec l'électrification des transports, entre autres.
Mm-hmm.
Et comme les normes environnementales sont de plus en plus sévères, on devine qu'il va y avoir de plus en plus de tels projets éoliens, solaires, d'énergie renouvelable, qui vont voir le jour au cours des prochaines années. Et peut-être, sait-on jamais, dans votre région près de chez vous.
Et c'est un peu la raison pour laquelle, pour en apprendre davantage justement sur les répercussions d'un tel projet d'énergie renouvelable, tu as parlé tantôt de projet éolien mm-hmm. Ou encore de projet solaire, on s'est tourné vers un endroit où il y a justement en chantier actuellement ou en gestation, et on s'est tourné vers la Corporation de développement économique de Smoky River, dont la directrice générale, Madame Diane Chiasson, est avec nous aujourd'hui à l'émission Peut contenir des infos. Madame Chiasson, bonjour.
Ben bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Chiasson. D'abord, expliquez-nous en quoi consiste ce fameux projet éolien de ABO Wind Canada qu'on entend là aménager du côté de Smoky River.
Le projet qui est proposé, c'est un projet de 25 turbines qui va produire une capacité d'électricité entre 6,2 à 7,2 mégawatts par turbine. Puis, c'est le projet total va fournir de l'électricité pour alimenter 65 000 résidences. Ça fait que pour nous, dans notre région, c'est un projet majeur. Puis, l'empreinte de ce projet-là, il va être aménagé sur un territoire de 7000 acres. Wow. Dans le comté de Smoky River.
Qu'est-ce qui a amené l'entreprise ABO Wind à choisir Smoky River pour établir son projet? Est-ce que c'est l'entreprise qui a fait les démarches ou c'est le conseil de développement économique?
C'est l'entreprise qui a fait les démarches. Okay. Puis ces démarches-là ont été supportées par un corridor de vent qui passe dans notre comté. Parce que même si les éoliennes, maintenant, ils ont une nouvelle technologie, ça prend moins de vent qu'avant, mais ça prend quand même une certaine quantité de vent. Puis, il y a des tests, eux autres, ils ont accès à toutes sortes de cartes, puis toutes sortes de rapports. Puis, ça démontrait que à un endroit précis dans notre comté, il y a un corridor de vent plus élevé qu'ailleurs dans le même comté. Et qui ont exploité ça, ils nous ont approchés pour voir si c'était faisable dans si les statuts et règlements ou de en anglais on appelle ça des land use bylaws, les statuts et règlements de l'utilisation de du terrain ou
du territoire.
Oui, puis le conseil de Smoky River a accepté à faire un changement mineurs dans les statuts et règlements pour leur permettre de placer, si les tests étaient concluants, un parc éolien. Mais là, ça, on parle de 2018. Là. C'est pas un projet qui arrive, qui commence, puis dans 6 mois, c'est tout accepté. C'est qu'ils ont dû faire des tests. La première année, c'était juste des petits tests pour voir si ça vaut la peine d'aller plus loin. Puis les tests étaient concluants. Après la première année, ils ont élevé une tour qui va collecter des certaines entrées de vent, puis voir si c'est suffisant. Puis ça, c'est une tour qui a été érigée, puis les tests sont pour une autre année. Mais avec les tests sont en train de faire, puis jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils ont collecté, ça garde que c'est un emplacement qui serait favorable pour un parc éolien.
Donc, ça va fonctionner. Mais, là, c'est un projet de longue haleine, Mme Chiasson. Je veux dire, vous nous parlez des débuts en 2018. On est rendu en 2023. Donc, c'est pas quelque chose qui se prépare comme ça sur un coin de comptoir, comme on dit. Là.
Non, puis il y a plein de choses. Ensuite de ça, la position, puis voir les maisons environnantes. You know, toutes les résidences, parce que chaque tour éolienne doit être au moins 800 mètres d'une résidence. Puis même là, si que on a l'approbation, il y a encore des approbations qui attendent. Là, on a eu une première journée de porte ouverte le 5 avril. Puis, il va y avoir une deuxième porte ouverte probablement par la fin du mois de juin. Il n'y a rien de déterminé encore, mais par la fin du mois de juin, on devrait avoir une autre porte ouverte parce que les résidents avaient beaucoup de questions. Puis, ensuite de ça, il y a une autre étape importante. Ils doivent placer une demande à l'environnement l'environnement puis la protection, parce que ça, ces parcs éoliens là, c'est très très réglementé.
Ouais. Mais Madame Chiasson, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, il y a eu une espèce de journée porte ouverte où on a pu expliquer un petit peu le projet aux gens de la région. Quand vous parlez justement de ce projet éolien là avec les gens de la région de Smoky River et les environs, c'est quoi les préoccupations ou disons les principales questions là, que les citoyens soulèvent à propos de ce projet là? Est-ce que c'est des questions de bruit, de je sais pas trop quoi, ça va scraper le paysage ou c'est quoi les questions que les gens posent?
Ben les questions, c'est quel va être l'impact sonore du projet à ma résidence, OK? Puis le projet doit se conformer à des exigences provinciales définies par la Commission des services publics de l'Alberta. Puis le projet ici a été implanté de manière à respecter et avoir à dépasser ces exigences. Le bruit ne sera pas entendu dans la majorité des résidences situées à proximité du développement. OK? Quand ils font les calculs de bruit, là, s'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur de leur résidence, qui est plus qu'à 800 mètres de la tour, ils pourront pas entendre le son de l'éolienne. Parce que ces éoliennes-là, ils vont pas vite, ils vont très lentement. À comparer les premiers parcs qui ont été implantés dans les 15 dernières années ou 20 dernières années. Okay? Ça fait que c'est pas quelque chose qui va tellement vite. C'est que ça, c'est une des priorités. Okay? L'autre priorité, les gens ont peur que ça va diminuer la valeur de leur maison. Puis en 2013, le ministère américain de l'Énergie a financé une étude portant sur plus de 50 000 ventes de maisons dans 9 différents États. Puis, ces maisons-là, ils se trouvaient à moins de 10 000 d'un parc éolien. Puis, il y en avait 1200 qui étaient moins qu'un mille du parc éolien. Puis, ils n'ont pas trouvé aucune preuve statistique que la valeur des maisons ont été diminuées à cause du parc éolien, dans les maisons qui ont été vendues. Ça, c'est une étude américaine.
Okay.
On n'a pas vraiment d'études canadiennes à ce sujet-là. Mais ça, c'est une grosse priorité. Puis vous savez, notre région, on a quand même, c'est une région qui a quand même une industrie de l'huile très prononcée aussi. On a des pump jack, là, des pompes pour puiser l'huile partout. Ça fait que c'est, you know, l'huile, ça sent, ça fait du bruit aussi. Tu sais, là, dans une société, on a à faire des choix. Puis je dis pas que le projet, il n'y a pas de projet qui n'a pas d'impact négatif du tout. Mais AB Wind Canada essaye d'avoir le moins d'impact possible dans la vie des résidents de la région Smoky River, puis dans la vie de tous les résidents où ce qu'ils ont des projets.
Madame Chiasson, Madame Chiasson, vous attendez à quoi comme retombée pour votre région?
C'est majeur. Oui. La construction devrait commencer au printemps 2024 s'ils ont toutes les approbations, parce qu'il y a encore une approbation qui doit leur être donné, puis ils l'auront juste au mois de décembre.
En conclusion, Madame Chiasson, parce que le temps file, moi, s'il y avait, par exemple, une région ailleurs au pays, parce que l'émission est diffusée aux quatre coins du Canada, de la côte ouest à la côte est, s'il y a un conseil municipal ou un conseil de développement économique ou des élus qui arrivent et qui présentent un projet comme le vôtre à leurs concitoyens dans leur région, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil ou quelles observations vous leur apporteriez à la lumière de ce que vous autres vous êtes en train de vivre à Smoky River?
Moi, je leur conseillerais de travailler étroitement avec une compagnie qui, comme ABO, ça peut être n'importe quelle compagnie de cette taille-là. ABO, c'est une compagnie internationale. Ils ont un siège social en Allemagne, puis au Canada, ils ont un bureau à Calgary. Mais c'est des projets immenses, puis c'est d'une complicité énorme. Ça fait que si qu'il y a des élus ou des conseils municipaux qui voudraient présenter ces genres de projets-là, c'est important d'avoir une compagnie pour les qui est expert pour les aider.
Autrement dit,
avoir les approbations qu'on a besoin, c'est extrêmement compliqué.
Autrement dit, de bien s'entourer, de travailler avec des gens qui sont professionnels et pas des amateurs qui arrivent avec quelque chose qui est dessiné sur une napkin, là, comme on dit.
Oui, puis il faut que c'est des compagnies, tu sais, qui a d'autres projets, qui peuvent vous montrer d'autres projets qu'ils ont faits, puis qui fonctionnent. Puis, oui, parce que EBO en Alberta, ils en ont plusieurs projets comme ça, déjà. Puis, ils doivent en avoir ailleurs au Canada. J'ai pas fait de recherche là-dessus. J'ai juste fait la recherche pour en Alberta. Puis, au début du mois de juin, notre conseil municipal à Smoky River va aller visiter un de leurs plus récents projets qui est similaire au nôtre ici.
Madame Diane Chiasson, qui est la directrice générale de la Corporation de développement économique à Smoky River, elle nous a expliqué un petit peu ce projet qui va être implanté chez eux. Elle nous avait dit début de la construction en principe en 2024 au printemps, quelque chose dans le genre, Madame Chiasson?
Est-ce que c'est plus la construction va commencer au deuxième trimestre de 2025?
OK.
Puis elle va être terminée au début de l'année 2026. Fait qu'on a encore une autre année et demie avant que la construction commence pour sûr.
Ben, c'est intéressant. Madame Diane Chiasson de la Corporation de développement économique de Smoky River, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à l'émission.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
François, quand on veut faire des découvertes musicales,
oui,
on peut errer comme une âme en peine dans les internets.
On pourrait.
Puis là, on va naviguer longtemps pour trouver du stock qui nous intéresse.
Effectivement.
Ou alors...
Nous, on a une meilleure solution.
Ou alors, on peut écouter un gars qui connaît ça, la musique, puis qui va nous faire des découvertes musicales.
Exactement. Un gars qui s'y connaît, que ça fait longtemps qu'il est là-dedans. C'est un gars qui anime une émission qui s'appelle Canrock.
Ouais, l'autoroute de la francophonie canadienne.
L'autoroute de la francophonie canadienne.
Et il écrit même, je pense, dans un excellent site de nouvelles qui s'appelle...
Oui. Franco-Presse.
Franco-Presse.
Oui. Oui, absolument.
Il y a une chronique, là, en plus.
Oui, il y a une chronique musicale, là. Donc, on parle de...
De Marc Lalonde.
Notre chroniqueur musical. Salut, Marc.
Salut. Bien content d'être avec vous encore une autre fois cette semaine pour vous faire découvrir, justement, deux personnages assez exceptionnels.
Oui, y a, dont un qui est, je pense, un petit peu plus différent que l'autre, là. Le premier dont tu vas nous parler, c'est un gars de la Nouvelle-Écosse, Marc Apolaggio.
Oui, Marc Apolaggio, Marc Leblanc. Marc Apolaggio, lui, c'est son sixième album qui sort, et tous ses albums ont été sortis en français. Mm-hmm. Mais dans le dialecte de la Baie-Sainte-Marie, dans l'accent de la Baie-Sainte-Marie, ce qui fait que ça sonne assez coloré comme chanson, comme texte, c'est assez coloré. Des fois, on ne saisit pas tout le temps juste qu'est-ce qu'il veut dire, mais on réussit quand même à se faire une idée. Et puis, sur le nouvel album, là, Bête à cornes, que j'ai commenté justement sur Franco Presse le mois dernier, eh bien, Bête à cornes, c'est son sixième album. Il y a 14 chansons françaises, là, avec le dialecte de la Baie-Sainte-Marie, comme je dis. Ça fait assez coloré, assez intéressant. Je peux peut-être vous envoyer un bout de la pièce titre, vous allez voir. Ça va vous donner une idée, là, du son qui sort de cet album-là de la Baie-Sainte-Marie.
Ma girl est un peu, tu te crochets, non, pour te chancho, t'es hors à honte, me durlotant, comme un chat farot. Angels are too round, dread gus go found. Moi je suis pareil, méfie-toi pour point. T'es gardé, je suis ta bête à corne.
Ouais, quand on entend Marc Apolaggio, faut tendre l'oreille, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Marc.
Ouais.
Oui, c'est assez particulier, mais c'est quand même on réussit quand même à saisir des choses assez importantes. Des fois, il nous parle du quotidien, il nous parle de la langue, il nous parle des clowns d'Ottawa, comme il dit lui-même dans la chanson. Donc, Marc Capoladio, c'est assez intéressant. On peut aller faire un tour, là. Marc Capoladio, en un mot, .bandcamp.com pour découvrir son univers. Un univers particulier. Mais je veux rajouter rapidement, en terminant sur le cas de Marc Capoladio, que c'est pas juste un bon auteur, compositeur, interprète. C'est aussi un excellent musicien, comme qu'on peut l'entendre dans la pièce Dark Eyes à la mandoline. C'est presque un virtuose.
Effectivement, c'est un excellent musicien et c'est aussi un excellent artiste. Et ce gars-là, de la façon dont il pense, juste si vous avez une chance d'aller regarder le vidéoclip de la chanson « L'éléphant rose » de Negwak, vous allez comprendre ce que je veux dire, comment théâtral ce gars-là peut être, hein, Marc?
Oui, exactement. C'est très imagé comme musique, comme texte. En spectacle, pour l'avoir vu il y a quelques reprises, c'est une bête de scène, c'est un géant gentil, comme que je dis, ou un gentil géant, peu importe, mais qui vient de la baie de Sainte-Marie, qui est fier de son coin de pays, qui est fier de sa langue, donc vraiment un très bon produit, bête à cornes, Marc Capoladio.
En plus, c'est un gars hyper sympathique.
Oui, hyper sympathique. Je vous amène maintenant du côté du Nouveau-Brunswick, où là, on a tout un phénomène. Jason Leblanc, qui, lui, a créé un personnage, Mononcle Jason, pas mon oncle, Mononcle Jason, qui est assez assez intéressant. Il a sorti deux albums dans les années passées. Il a sorti Dans son prime en 2016 et en 2019, La grosse piastre. Et là, ce que c'est, Live avec la paroisse, c'est une compilation des deux albums, les chansons des deux albums qui a fait live devant public. Et c'est quand même assez intéressant. Il nous amène dans un univers de la musique country 70 avec les guitares un peu grinçantes, un peu style. Et puis aussi avec un son de... Lorsqu'il chante un son, on dirait que ça sort d'un vieux vinyle de 1972-73. Mais c'est quand même intéressant. Et là aussi, on parle de Fiac. On parle d'univers du quotidien, d'univers d'échanges, de relations entre les voisins. Des fois, on n'a pas des voisins très, très catholiques. Donc, il nous parle de tout ça. Et c'est vraiment assez rétro, assez intéressant. Comme je vous dis, je vais vous envoyer une première chanson qui va vous donner un peu le côté Fiac, la couleur du côté Fiac. Tout va on, voici mon oncle Jason.
Plus grand, ça prend le bois plus grand. There's no question, ça prend un mannequin pour avoir la place à cette danse, à cette division. Vise les aiguilles longtemps.
Il est vraiment intéressant, ce gars-là. Hein? C'est un peu comme tantôt, on parlait de Marc Capoladio, comment est-ce qu'il peut être théâtral et tout ça. Mon oncle Jason, c'est pas mal ça aussi. Là.
C'est pas mal ça aussi. C'est un personnage plus grand que nature, comme Marc Capoladio. Et puis, sur cet album double-là, capté devant le public à Mimrancourt et à Moncton, ben c'est comme des capsules temporelles, là, comme je vous dis, un son country western 70 qui nous fait sourire, mais aussi les anecdotes qu'il nous raconte, c'est aussi des choses qui nous fait rire un peu. On réussit à saisir quand même assez bien le propos. C'est assez fluide, ça s'écoute facilement, donc c'est une belle musicalité. Je vous prie d'aller voir mononclejason.com pour découvrir son univers. On va écouter une autre pièce qui s'appelle Altamarde.
Well, j'ai peut-être pas le plus vaillant sur un job, ça, mais il y a rien qui me tente plus que de travailler avec du monde qui est plus paresseux que moi. Ça fait anyway, faut que je compte ça, c'est. Il arrive sur le job, ça, un heure en retard à bord de ça. Il était bien comme un des deux bottines, ça drague à ses pieds. Puis la première affaire qu'a eu le job de demander, c'est Cheerio qui était smoke. Well, Stereo semble votre coquille voulait grand chose. Elle lui disait, tu es dans le même trou. But je pense, c'est pas une chance. Well, ça va y en tease. J'ai dit, bon, qu'une screw, puis y'amène un clou. Puis il portait stuff du sang, j'étais dessous. Mais au moins, écoutait, puis essayait du mieux qu'il pouvait. But sa vire écrase très pas mal vite quand je porte une sheet de 4 par 8. Puis j'ai dit, lève ton bord, puis elle dit, ça le tentait pas. Sushi est dit, halte à marre.
C'est vraiment deux artistes là que tu peux facilement t'asseoir un samedi soir en mangeant puis en écoutant cette musique-là.
Oui, oui, c'est deux artistes qu'il faut écouter absolument. Si on est tanné là, de la pop facile, bien montée.
C'est ça.
Lissée, comme catchy. On dit.
Ouais.
On peut découvrir des choses merveilleuses en allant à marcapoladio.bandcamp.com. Vous allez découvrir un univers assez particulier. Et mononcjason.com, là aussi, c'est assez particulier. Il faut écouter. Il faut être prêt à être ouvert à entendre des choses un peu bizarres et à sourire. Et des fois, on sourit, mais oh, oui, c'est vrai, on a ces caractères-là aussi dans notre ADN, donc c'est quand même assez réussi.
Mais tu l'as bien dit, Marc, c'est deux artistes qu'il faut écouter.
Oui,
tu les entends pas. Puis, si tu les entends pas, il faut que tu les écoutes.
Non, c'est ça, il faut que tu les écoutes et il faut te laisser amener ailleurs aussi.
Ouais.
Parce que c'est pas du top 40, mais c'est quand même de très bons produits, assez solides. Qui nous fait sourire, des fois avec un petit sourire en coin.
Donc, c'est pas des découvertes musicales qu'on a faites aujourd'hui, si on a découvert à toute fin utile des personnages. Pratiquement.
Oui.
Exactement.
Marc Lalonde, Lalonde des ondes, que vous pouvez entendre sur plusieurs stations de radio à travers le pays avec l'émission Canrock, que vous pouvez lire également à travers ses chroniques sur l'excellent site de nouvelles francophone francopresse.ca. Marc Lalonde, merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup de m'avoir un peu donné un peu de temps d'antenne et je lance l'invitation au monde. Allez sur les internets, allez fouiller, allez découvrir qu'est-ce qui est un peu différent du mainstream et vous allez découvrir de la belle francophonie musicale canadienne.
Salut, merci Marc.
Merci Marc.
Salut.
Peut contenir des infos.
Simon, l'équipe de promotion et communication de Peut contenir des infos nous a fait un méchant beau cadeau cette semaine.
Oui, il y a une page Facebook maintenant de Peut contenir des infos. Même pas de ruban, même pas de boîte,
rien.
Pas de papier d'emballage.
Non.
T'es arrivé juste comme ça à un moment donné.
Quelle belle surprise!
Eh oui, une page Facebook.
Oui.
Fait que si vous êtes sur Facebook, cherchez Peut contenir des infos et magie! Vous allez avoir un chapeau qui est là où on déballe de temps en temps.
Mm-hmm.
Je sais pas que ça va être de façon quotidienne, mais de temps en temps, on va apporter des compléments d'information, par exemple.
Okay.
Tu sais, ça arrive des fois, on donne un lien.
Oui, oui.
Mais en ondes, ça se dit pas pire quand c'est court puis que ça se comprend bien. Mais il y a des fois, des adresses sont un peu longues.
Ouais.
Ça fait qu'on va les mettre là-dessus, entre autres choses.
Très bonne idée.
On va mettre des références de nos invités. Donc, il y a plein d'affaires que vous allez pouvoir retrouver là. C'est
un paquet d'infos.
Ben, vous devez savoir depuis le temps comment ça fonctionne Facebook un petit peu. Sais-tu comment ça fonctionne, toi?
Non.
Non.
Mais notre page peut contenir des infos.
Oui.
Simon.
Ben, c'est bon,
peut
hein?
Peut contenir des infos.
Absolument.
T'as pogné?
Je la pogne un tout petit peu. Absolument. On est rendu dans un tout petit instant. Ça vous empêche pas de nous écrire par courriel, là, si
c'est ça.
Tente,
exactement.
Exactement. On vous donne de temps en temps l'adresse, mais c'est une autre alternative pour vous autres pour suivre les activités, puis peut-être nous adresser la parole.
Absolument.
OK. Dernier quart d'heure dans un moment.
Oui.
On s'arrête pour une pause. Ça, je sais que t'aimes tout le temps ça, les pauses.
Ah oui, j'adore les pauses.
OK. On arrête pour une pause, puis on revient pour le dernier quart d'heure.
Cette émission peut contenir des infos.
Salutations dans ce dernier quart d'heure à un fidèle auditeur qui ne nous avait pas écrit jusqu'à présent puis il a dit, ben, il faudrait peut-être que je le fasse à un moment donné.
C'est ça, exactement. André. À Victoria.
À Victoria, en Colombie-Britannique.
Oui. Salutations, mon cher André. Merci de nous écouter. C'est vraiment gentil. Et surtout, merci d'avoir pris le temps de nous écrire.
On n'a pas besoin d'être long, ça.
Ben non, c'est ça. Parce que lui, c'était simplement un petit commentaire qu'il voulait nous faire. Et puis, c'est tellement apprécié de notre part. Alors, si vous voulez le faire, vous voulez faire comme André, pcdi@radiorfa.com. Arrobas, gênez-vous pas, vous avez n'importe quoi nous dire.
Arrobas, c'est le A commercial, là, en oui, passant. Là, tu fais ça avec CTRL 2, si t'as un clavier.
Non,
de... Oui, CTRL 2 ou encore...
C'est ALT. Non, ALT. C'est le ALT.
C'est le ALT?
ALT 2, oui.
OK. ALT 2 ou CHIFT 2, là, dépendamment si t'es canadien français.
Oui, ça dépend c'est quoi ton clavier. Là.
OK.
Oui. Tu vas nous parler de quoi, mon cher ami?
Je vais vous dire que tous les pays du globe ne sont pas, disons, égaux vis-à-vis de la crise climatique.
Dans le sens où on la voit pas de la même façon?
Non, dans le sens où on n'a pas tous contribué de la même façon au réchauffement climatique.
OK.
Eh oui. Il y a une carte du monde qui a été publicisée. Nous autres, on l'a publiée.
C'est ça, nous autres, on fait ce job-là.
C'est ça. Alors, eux autres, ils ont publié cette carte du monde-là. C'est l'organisme Our World in Data qui a publié cette carte où l'on révèle que tous les pays du monde n'ont pas eu, disons, le même impact sur la hausse des températures depuis environ un siècle et demi. Tu nous parlais tantôt là, de hausse du climat là avec le circuit et tout ça. Là, je vais revenir là-dessus tantôt pour faire une espèce de parallèle. Là. Les travaux de l'organisme en question, donc, ça porte sur des recherches empiriques et puis des données qui s'intéressent à l'évolution des conditions de vie à travers le monde. Dans ce cas-ci, c'est les températures, mais on ne touche pas qu'à ça. Et qu'est-ce qui explique que tous les pays n'ont pas contribué de la même façon, selon toi, à la hausse des températures?
Bon, on n'est pas aussi développés.
Et voilà, entre autres choses.
Oui.
La révolution technologique, pas technologique, mais industrielle.
Industrielle, oui.
J'allais dire technologique, c'est vrai que ça va un peu avec l'autre.
Ben, ça va avec l'industrie, oui.
C'est la révolution industrielle.
OK.
C'est tout. Tous les pays du globe, évidemment, n'ont pas progressé au même train là, par rapport à l'industrialisation depuis le 19e siècle. Et puis quand on jette un coup d'œil sur la carte en question, on s'aperçoit que, sais-tu que les pays qui sont les plus industrialisés puis qui ont galopé le plus là depuis les, on va dire, 100 quelques dernières années, c'est eux autres où effectivement il y a eu le plus de réchauffement ou qui ont le plus contribué.
Ça.
Le réchauffement qui est d'à peu près 1,2 degrés Celsius supérieur aux températures qu'on connaissait avant la révolution industrielle au 19e siècle, c'est ça que tu disais tantôt. C'est ça. Quel pays ou en fait a le plus ou quels sont les pays qui ont le plus contribué à la hausse mondiale des températures depuis la révolution industrielle. Je vous donne le top 10.
Tu vas nous donner le top 10 parce que j'étais en train de le faire dans ma tête.
Tu le faisais dans ta tête?
Oui.
Avant de commencer, là, il faut que je vous dise que quand on parle quand on comptabilise les conditions, en fait, les raisons pour lesquelles ces pays-là ont contribué, on compte beaucoup de choses, là. On compte, évidemment, les émissions de gaz à effet de serre avec les énergies fossiles, mais on inclut aussi surexploitation agricole, déforestation massive et tout ça. Alors, vient en 10e place, la France.
La France
qui a causé, qui a contribué à elle seule à un réchauffement de 0,02 degrés Celsius de réchauffement à l'échelle mondiale.
Ah, OK.
Sur le fameux 1,2.
D'accord, on met même un degré. C'est cool, ça.
C'est cool. Neuvième rang, surprise.
Surprise, le Canada.
Le Canada.
Au neuvième rang
mondial. On a contribué pour... Plus que la France, en plus.
OK.
0,03 degrés Celsius de réchauffement climatique, même chose que le Royaume-Uni, même nombre de degrés Celsius. L'Allemagne est septième. Ils ont causé pour 0,05 degrés Celsius du réchauffement de la planète. L'Indonésie, qui arrive en sixième place. C'est gros quand même, l'Indonésie.
Oui, absolument.
Et ça s'est quand même assez industrialisé depuis quelques années. 0,06 degrés Celsius de réchauffement à l'échelle mondiale. Et là, on entre dans le top 5. Il n'y a pas beaucoup de surprises.
Ah, j'imagine que non.
Non. Vous avertis, vous verrez pas l'Érythrée là-dedans, là, puis non.
Non.
Vous verrez pas ça. Puis c'est pas surprenant parce que ça a beaucoup à voir avec la taille et le poids démographique de ces cinq pays-là.
Faire
une petite idée.
On voit qui c'est qui est en tête, là.
Cinquième pays qui a le plus contribué au réchauffement des températures, l'Inde.
L'Inde,
Écoute, ils dépassent le milliard d'individus, eux autres.
C'est ça.
0,08 degrés Celsius de réchauffement à l'échelle mondiale, c'est leur contribution.
Wow.
Même score que le Brésil, où il y a beaucoup d'élevage au Brésil. Mm-hmm. On sait que c'est quand même le pays, ou un des pays en tout cas les plus industrialisés ou les plus, économiquement là, développés en Amérique latine, 0,08 degrés aussi. Et sur les trois plus hautes marges du podium, écoute, Russie en troisième place.
Ah, OK,
pétrole.
Ouais. Ben oui, absolument.
Entre autres choses. Eux autres, ils ont contribué carrément pour 0,1 degré Celsius. La Chine arrive deuxième avec 0,2 degré Celsius de réchauffement à l'échelle mondiale. Et je ne sortirai pas la fanfare pour ça, là, parce que vous vous y attendiez. Les États-Unis d'Amérique ont contribué à eux seuls à 0,28 degrés Celsius sur le 1,2 degré de réchauffement climatique qu'on a connu.
Hey, c'est énorme, ça.
C'est énorme.
Mais il faut comprendre aussi que
c'est à mettre en perspective.
C'est la grosseur du pays.
C'est à mettre en perspective parce que, comme on le sait, la superficie, la population, il y a plein d'autres facteurs aussi qui peuvent expliquer des résultats comme ceux-là. Je donne un exemple. Il y a des pays qui figurent pas dans le top 10, mais qui ont quand même contribué aux autres aussi à un niveau assez comparable à la France. Là, tu sais, on disait tantôt 0,02. Ben, l'Argentine, le Mexique, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Niger, l'Iran ont tous contribué aux autres aussi à 0,02 degrés Celsius du réchauffement des températures. Donc, en conclusion, quand on regarde ça en pourcentage, je vais clore avec ça, l'Europe a causé 14% du réchauffement climatique depuis l'ère de l'industrialisation.
Oui.
Les États-Unis, à eux seuls, sont responsables de 23%. Et la Chine, 16%. Les chiffres tiennent compte du réchauffement climatique qui est survenu depuis le milieu du 19e siècle, à peu près, là. Mm-hmm. Disons, depuis 1851 jusqu'à 2021.
Wow.
Donc, sachez-le, mes chers amis, nous autres aussi, le Canada, malheureusement, on a contribué.
Oui, absolument. Moi, je vais te parler de quelque chose complètement différent.
OK.
Qui n'a pas vraiment rapport avec le réchauffement climatique, mais peut-être que ça a rapport dans le fond. C'est que la ville de New York, tu sais que selon une légende urbaine qui perdure, il y aurait à New York autant de rats, des rats là.
Oui, des rats, les
rats d'égout là.
Les Rattus norvegicus là.
Oui,
les,
c'est ça. Autant de rats que d'habitants, soit à peu près 9 millions.
Moi, j'ai pas de misère à le croire.
Moi non plus. Pour être allé à New York, non, effectivement. Le nouveau maire de New York a dit, OK, t'essayes là, hein? Ça va suffire, là. Alors, il a passé une annonce.
Ah.
Dans le journal. Et à la radio, bien entendu. Pour trouver son premier dératiseur en chef.
OK.
Et ils ont trouvé, effectivement. Mais je vais te faire part de la publication, OK? Le candidat idéal à l'offre d'emploi devait être ultra motivé, assez sanguinaire et déterminé à examiner toutes les solutions possibles sous divers angles. Mais aussi avoir de la détermination et un instinct de tueur pour l'abattage à grande échelle des nuisibles.
Ouais.
Non, mais c'est l'offre d'emploi. Qui c'est qui va postuler pour ça?
Ben, quelqu'un
mais il y en a qui ont postulé.
Quelqu'un qui a de bonne volonté, là.
Oui, et la nomination de Kathleen Corradi.
Elle, là, il n'y a pas de quartier, là, les rats, là.
Non. Il n'y a pas de quartier parce que elle est décidée qu'elle va effectivement éradiquer la population de rongeurs de New York. Mais non, mais s'il y en a 9 millions, là.
Ah, bonne chance.
Elle s'en fait des trappes à souris, ça, là.
Oui.
Tu t'imagines?
Et puis, il va falloir qu'elle s'y prenne de façon, humaine, entre guillemets, là, puis
faire preuve de nos jours, elle n'a pas le choix, là.
Ben, puis faire preuve de précaution aussi.
Ben oui, parce qu'ils ont essayé beaucoup. Ils dépensent des millions et des millions à chaque année, la municipalité, pour trouver des nouvelles techniques pour essayer d'éradiquer la population de rats. Ils ont essayé de la glace carbonique, des bains d'alcool, et ils ont essayé comme un tas d'affaires.
Okay.
Mais ça marche pas vraiment. Alors, la dame, elle, a décidé que moi, je vais appliquer, puis je vais m'en occuper, moi, des rats. Il y avait d'ailleurs un rat qui avait accédé à la célébrité sur l'Internet en 2015. C'est une vidéo, puis je me souviens de l'avoir vue, qui montrait le rat descendant les escaliers d'une station de métro avec une pointe de pizza dans la bouche.
Oh!
Et ça, comme il y avait eu tellement vu sur ça. Cette affaire-là. Il y a même une association d'habitants de Manhattan qui existe, qui a été baptisée Rats.
Ah ben oui.
qui organise régulièrement des battues avec leurs chiens pour essayer de tuer le plus de rats possible.
Ben.
Tu sais, parce que le rat comme tel, c'est correct, là, mais c'est parce qu'il est tellement porteur d'un paquet de maladies.
C'est ça.
Que tu veux pas avoir ça, là.
Ben, c'est nuisible, hein. Ça peut fouiller dans les poubelles, par exemple. Ça peut, comme tu disais, répandre des maladies. Mais écoute.
Ils n'ont pas le choix.
Et si c'est pas le rat lui-même, c'est, par exemple, les puces qu'il va porter.
Exact.
Les trucs du genre.
Ah, oui.
Tu sais qu'il y a des épidémies, par exemple, de peste ou de trucs du genre qui ont, à une certaine époque, éclaté, justement, à cause des rats.
À cause des rats. C'est ça.
Je sais que c'est pas, pour les amants des animaux, ce n'est pas très, très sympathique de dire ça, mais s'il y a une bête dont, puis il y a peut-être parmi vous autres des gens qui sont propriétaires d'un petit rongeur à la maison, je sais.
Oh oui, mais OK, mais une souris ou...
Différence entre le gros rat d'égout.
Un cochon d'Inde, là, c'est pas...
Non, c'est ça.
C'est pas un rat d'égout, là.
Bon, on va souhaiter bonne chance à cette dame qui s'appelle comment déjà?
Qui s'appelle Kathleen Corradi.
OK.
Ouais, elle a de la job devant elle.
Oui, elle a de la job et puis on va l'appuyer.
Oui, absolument.
De tout notre cœur.
En pensée.
En pensée, oui, ça, exactement. Ça conclut notre émission pour cette semaine.
Oui, déjà.
En espérant que vous l'ayez apprécié. Et puis on va
C'était très intéressant.
Très intéressant. On va se retrouver la semaine prochaine.
Absolument.
On va frapper un circuit qui va nous entraîner jusque de l'autre bord de la semaine. On vous retrouve de l'autre bord. Salut.
Bonne semaine.